Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint.
Apolline Verlon.
Bonjour à toutes et à tous. C'est le roman de tous les contrastes, le feu et l'eau, l'air et la terre. Ces quatre éléments naturels qui nous façonnent et qui ici nourrissent l'écriture de mon invité et dessinent en creux son jeune personnage, un garçon de 9 ans au début, 15 ans à la fin, qui essaye de rester en équilibre sur le fil de sa vie. Un premier roman qui embrasse toute une région, celle de Thetford Mines, une ville au sud de Québec, au Canada, à la fin des années 80, alors que l'industrie minière vit ses dernières heures avec l'extraction d'une roche, tout en contraste, elle aussi, puisqu'à la fois elle protège, mais empoisonne, et donne son titre à ce livre, Amiante, qui paraît aux éditions La Peuplade. Bonjour Sébastien Dulude.
Bonjour, merci, c'est une magnifique entrée en matière.
Merci beaucoup. Vous êtes né à Montréal, vous êtes éditeur et poète, mais ces lieux que vous décrivez ici, vous les connaissez bien pour y avoir vécu tout jeune. Mais alors, qu'est-ce qui a déclenché l'écriture de cette fiction ? Est-ce que c'est l'envie de raconter l'incandescence de l'enfance ou l'envie de décrire comment un environnement à la fois très beau, mais en même temps toxique, peut engendrer de la violence?
Oui, c'est exactement cette conjugaison-là. En fait, je crois que je n'avais pas réalisé à quel point l'enfance avait cette incandescence, justement. J'avais envie d'explorer l'amitié entre garçons à une époque d'innocence complète et de les situer à l'abri d'un monde, d'un environnement qui est effectivement assez particulier. J'y ai grandi, moi, de 6 à 16 ans. Donc, j'ai été enfant et adolescent dans ce territoire-là. Et on était dans un quartier déjà isolé par rapport au petit centre urbain qui est la ville. Nous, on était carrément à côté d'un des puits d'amiante, avec ces collines, donc, qui sont formées par l'extraction du minerai. Et c'est un lieu à la fois magique et dangereux. C'est-à-dire qu'il y a quand même des forêts, il y a des rivières et tout. C'est une nature à quelques pas, à quelques coups de pédale de vélo. Mais il y a tous ces terrils qu'évidemment, on avait envie de conquérir aussi. Alors, ça donnait une enfance tout en innocence, mais avec un certain danger dont on ne réalisait même pas la nature, en fait, parce que c'est tellement omniprésent. La semaine, la mine est bruyante. Le dimanche, tout tombe à plat parce que c'est le congé de la semaine. Et là, c'est là qu'on allait sauter les clôtures.
C'est cette question que je voulais vous poser, justement, Sébastien Dulude. Quand vous viviez sur place, est-ce que vous la sentiez, cette menace, ce danger qui planait, ou alors cette tension de la catastrophe qui couvre, de la radioactivité de la roche, vous l'avez accentuée pour donner de la couleur à votre récit?
Si je me fie à mes souvenirs, c'est vraiment la solitude qui m'a frappé le plus comme enfant. On arrivait quand même de Montréal, d'une banlieue résidentielle de Montréal, et je voyais personne jamais dans le quartier. On cherchait les gens, on se demandait où ils étaient. Après la forêt, moi, c'était très nouveau pour moi. Donc, c'était quand même l'aspect positif peut-être de l'amiante, son côté isolant, la raison pour laquelle on l'exploite. Après, le côté dangereux, nocif pour la santé, on l'a entendu, je pense. Ça fait partie de la grande conversation. D'autant qu'à l'époque où on y allait, c'était le début de la fin pour les mines. Parce que, justement, il y avait cette mauvaise presse internationale sur les données médicales qui disaient que la substance était cancérigène, en fait. Et donc, de moins en moins de clients. Et les mines, nous, en fait, si je me rapporte à mon histoire biographique, mon père avait été engagé pour en fermer une, finalement. C'était une manière administrative de continuer avec la compagnie, alors qu'elle ne produisait plus. Donc, je crois qu'assez rapidement, il s'est placé dans mon esprit qu'on était sur un monde un peu mort. Et ça, je pense que ça m'a hanté, cette idée d'avoir un ami aussi que je cherche désespérément. Je me suis un peu projeté dans mon personnage principal. Et là, de là, j'ai exploré de la fiction quand même, beaucoup. Mais de trouver cet ami-là et de faire agir un peu les forces violentes de l'environnement, ça a propulsé le roman.
Alors parlons-en de ce roman est en effet de ce personnage principal, Steve Dubois, 9 ans au début, même si le roman s'ouvre sur une scène où il est vraiment tout petit, à 3 ans, il se blesse en tombant dans le foyer d'une mine. C'est un garçon calme, anxieux néanmoins,
ouais.
Intranquille. Il faut dire que son père a la main leste, hein. Et son horizon s'éclaire quand il fait donc la connaissance d'un nouveau venu. Charles Ellie, qui va devenir son meilleur ami. Avant toute chose, que représente Steve pour vous? Est-ce que c'est un garçon presque ordinaire, une chenille prête à se métamorphoser en papillon?
Je sais pas si la métamorphose est possible. J'envisageais un enfant qui était effectivement très anxieux, qui avait toutes sortes de difficultés à cohabiter avec le monde. Et je me souviens très bien, en fait, de l'absence d'accompagnement pour ce genre d'enfant-là. Pas d'intervenant à l'école, les parents qui laissaient les enfants un peu à eux-mêmes, laissaient à eux-mêmes toute la journée, surtout pendant les vacances scolaires. Donc, il s'est comme développé des enjeux qui n'étaient pas pris en charge. Donc, pour moi, il représente quand même un enfant qui part avec certaines difficultés. Parce qu'on sait qu'en grandissant, le monde ne devient pas plus facile non plus. Donc, à l'aube de ça, son meilleur ami, Charles Ellie, est l'espèce de protection ultime. Il n'a plus besoin de se préoccuper de son rapport au monde. Il se bâtit avec Charles Ellie un petit monde à eux, dans leur cabane, dans la forêt. Je lui ai inventé un ami qui est son parfait complément, en fait. Il est tout ce qu'il n'est pas, Steve. Il est Charles Ellie, il est volatile, il est très créatif, audacieux, toujours prêt à aller plus loin dans leurs aventures. Et pendant ce temps-là, ben, Steve, il est ravi, en fait, d'avoir cette... C'est lui les ailes de Steve, peut-être. C'est lui le papillon, déjà, Charles Ellie, pour emprunter votre image. Mais tout en s'abandonnant à ces plaisirs-là, je voulais faire travailler cette voix intérieure de Steve, très affolée de tout, qui traite tout sous le mode de la panique, pour mieux pouvoir regarder les répercussions de ça une fois arraché à ce bonheur-là, à l'âge de 15 ans, où là, ben, effectivement, cette anxiété-là va prendre toute la place.
Alors, on retrouve donc le contraste dans ce couple d'amis, le garçon un peu intérieur et l'autre qui est beaucoup plus solaire. Alors, oui. Tous les deux, ils font du vélo, ils passent des heures dans une cabane, dans les bois, à manger des bonbons, à lire des bandes dessinées, Tintin. Le temple du soleil, tiens, encore une référence au feu. Ils somnolent et se refugient dans les arbres en hauteur, loin du monde. Je me disais, Sébastien Dulude, est-ce que, et en même temps, ils sont au centre du monde, est-ce que ce n'est pas déjà un lieu de littérature?
Oui, je pense. Déjà, mettre en abîme la lecture dans un livre, il y a cette espèce de rapport-là. Et pour moi, j'ai toujours envisagé la voix de Steve, qui est le narrateur du roman, comme un écrivain de sa propre vie, avec une langue qui est probablement trop mature pour son âge aussi, mais puisqu'il y avait occasion de littérature, je l'ai saisi. Mais c'est vrai que c'est un lieu d'imagination, en fait. C'est un lieu où les histoires... Et il y a de l'onirisme aussi, les rêves, tout ça qui poursuivent un peu la lecture des Tintins. Donc, tout ça, effectivement, donne lieu à leur propre histoire, en dehors du monde réel, un peu.
Et vous, Sébastien Dulude, où est-ce que vous avez commencé d'écrire? Dans une cabane aussi?
À lire, oui. À écrire, c'est venu beaucoup plus tard. Moi, c'est venu à la fin de la vingtaine. En fait, je grappillais quelques poèmes, peut-être à l'adolescence, des chansons, de musique. Mais de manière plus sérieuse, j'ai trouvé la littérature assez tard, en fait, dans mon parcours. J'ai fait le droit avant de faire littérature. Et c'est un peu par accident où un professeur m'avait repéré. J'étais à ce moment-là en train de passer une licence pour enseigner le français à l'école secondaire, lycée chez vous. Puis on m'a fait bifurquer vers la littérature et là, j'ai plongé corps et âme. Et j'ai commencé à publier de la poésie en 2013 seulement. Donc déjà, j'ai plus de 30 ans à cette époque-là. Et mon premier roman qui arrive aujourd'hui en 24, après 11 ans de publication, mes premiers poèmes en revue en 2006. Donc j'approche 20 ans d'écriture. Mais compte tenu que j'en ai 47, c'est quand même assez tardif.
Non, il fallait que ça mature, il fallait que ça grandisse en vous, probablement, et peut-être avec un peu de distance, avec le temps.
Oui, mais il y a aussi concrètement l'idée de... Je n'avais pas fait les rencontres qui m'offraient cette option-là, cette manière de vivre-là dans l'écriture, d'y trouver une activité à laquelle je reviendrai. En fait, j'ai cet esprit qui a besoin d'être occupé continuellement et je fais continuellement des phrases dans ma tête. Il y a beaucoup de... J'ai un réflexe poétique, je pense, avant même de l'avoir mis sur des pages. Je pense que j'avais déjà cette habitude de tout lire ce qui tombe sous mes yeux. Ça commence avec les boîtes de céréales, puis à l'enfance, et puis j'ai continuellement toujours remarquer les mots, travailler les mots dans mon esprit. Et quand j'ai comme plus concrètement découvert que c'était possible d'en faire une démarche et de travailler, d'avancer dans tout ça, ben, je m'y suis vraiment encore là, jeté corps et âme.
Alors revenons à votre roman Amiante, Sébastien Dulude, dont la première partie se déroule en 1986. Et à cette époque, les deux enfants, Steve et Charles Ellie, amis inséparables, sont aussi passionnés par les catastrophes.
Oui.
Alors, l'explosion de la navette Challenger, par exemple, où tout l'équipage meurt au moment du décollage. Tchernobyl, cette explosion 2000 fois supérieure à Hiroshima, rappelons-le. Il y a aussi un crash d'avion. Et étrangement, vous écrivez, Sébastien Duluth, que des enfants ont eu la prémonition de cette tragédie. De même que Charles Ellie dit aussi avoir su que la navette spatiale allait s'écraser. Qu'est-ce que vous entendez par ces deux récurrences?
Ah, c'est intéressant, ça. Je n'ai pas beaucoup réfléchi après coup. Pour moi, les catastrophes, c'est une manière, justement, une forme de prescience, d'avoir cette espèce de fascination morbide pour les grandes catastrophes qui pouvaient métaphoriquement signifier à quel point le milieu est dangereux. Mais comme les enfants y vivent, ils ne réalisent pas cette proximité-là avec un certain danger et sont fascinés un peu par... En fait, ça fait aussi créer une bordure autour de leur monde. Si on va trop loin, c'est dangereux. Et même vers les airs. Et si on vit dans un trou... métaphoriquement, dans une mine, même le ciel est dangereux. Et ça devient peut-être, à un certain point, pour Steve, en tout cas, la voie d'échappement, la seule qui lui reste. Il regarde fréquemment vers le haut, d'où les oiseaux sur la couverture. Et là, quand on apprend que les avions crashent, que Challenger explose, il y a aussi une professeure d'école dans Challenger. Donc vraiment, là, tout d'un coup, ça touche aux enfants d'une autre manière. Et c'est vrai que j'ai associé ça en faisant des recherches sur ce fameux crash d'avion en Californie, je crois, ou au Mexique, un de ceux que je relate, donc les enfants collent la coupure de journal dans le cahier. J'avais remarqué ça dans mes recherches, qu'apparemment des enfants l'avaient prévu. Et là, j'étais là, ben oui, Charlie Lee, le petit poulain, pourrait avoir prévu dans leur espèce d'excitation au décollage de Challenger, peut-être qu'il l'aurait prévu. Et tout ça, finalement, pourrait semer au lecteur l'impression qu'une vraie catastrophe surviendra.
Dont on ne peut rien dire.
Dont on ne dira rien.
Effectivement, une vraie catastrophe va arriver. Et c'est pour ça aussi que le roman est construit en deux parties. Alors, on va continuer de parler d'amiante dans un instant avec vous, Sébastien Duluth. Mais pour le moment, on va faire une pause musicale dans Littérature sans frontières. Et comme vous le citez à plusieurs reprises, je propose qu'on écoute un extrait du spectacle Starmania.
Parfait.
Qu'en pensez-vous?
Ben, je l'ai revu récemment. Il a été monté ici et à Montréal aussi. J'étais ravi de revoir ça. Pour moi, c'est... C'est une musique que j'écoutais adolescent, mais sans trop le dire, parce que ça jurait un peu avec les goûts de métal de ma bande d'amis. Mais moi, j'étais charmé par les mélodies de Berger, les voix aussi qui étaient choisies. Les textes aussi de Plamondon, surtout au Québec, ça résonne très fort, mais il y a des grandes pièces fulgurantes dans cet album et ce spectacle-là.
Avec un titre en particulier que vous aimeriez écouter ici?
Ben, le SOS d'un terrier en détresse.
Alors, on l'écoute.
Pourquoi je vis, pourquoi je meurs? Pourquoi je ris, pourquoi je pleure? Voici le SOS d'un terrien en détresse. J'ai jamais eu les pieds sur terre. J'aimerais mieux être un oiseau. Je suis mal dans ma peau. Je voudrais voir le monde à l'envers. Si jamais c'était plus beau. Plus beau vu d'en haut. Confondu la vie avec les bandes dessinées, j'ai comme des envies de métamorphose. Je sens quelque chose qui m'attire, qui m'attire, qui m'attire vers le haut. Grand loto de
Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI, en compagnie aujourd'hui de l'écrivain Sébastien Dulude, dont le premier roman vient de paraître aux éditions québécoises La Peuplade, sous le titre Amiante. Alors, c'est un mot fascinant. D'ailleurs, on l'a dit parce que c'est un minéral qui a été utilisé pour protéger, pour isoler les bâtiments, mais qui s'est révélé toxique pour la santé. Et c'est une dualité que vous explorez dans cette fiction construite en deux parties. Quand Steve, votre protagoniste, a 9 ans, puis quand il a 15 ans. Et entre-temps, en effet, il s'est passé un drame et il y a toute une ellipse dans laquelle le lecteur, la lectrice sont invités à réfléchir ou à s'immerger. Et d'ailleurs, les deux chapitres sont intitulés « Je me nourris du bon feu » et « J'éteins le mauvais », en référence aussi à la devise de François Ier, voilà, le roi de France, que vous mettez en exergue. C'est quoi un bon feu et c'est quoi un mauvais feu, Sébastien Dulude ?
Ouais, c'est drôle parce que cet exergue, je l'avais repéré très tôt dans l'écriture, mais quand ça a finalement structuré le roman, quand les deux parties me sont apparues vraiment clairement et que l'exergue coupé en deux fonctionnait, mais je me disais, oui, le bon feu, c'est la partie où nous sommes toutes positives et la partie mauvaise, après, c'est... Après l'expérience de cette perte, Steve, son feu intérieur, n'arrive plus à le calmer, le consomme et doit le tourner vers l'extérieur. Et là, le mauvais feu, bien, c'est cette ville, en fait. Bien, c'est la famille aussi, parce que vous l'avez mentionné, le père est rude avec son enfant, donc il y a déjà cette cellule-là qui est difficile. J'ai fait quelques scènes à l'école aussi où, encore là, on retrouve Steve pas tout à fait capable de s'imposer. Il se fait intimider. Et tout ce milieu-là, donc, finalement, est un problème pour lui. Mais le problème, c'est comment justement se rebeller contre une ville qui, par essence, est ininflammable à cause du matériau. Donc, il y a quelque chose qui m'apparaissait un obstacle, une quête vaine destinée à ne pas fonctionner. Et je voulais travailler justement sur cet peut-être échec annoncé, sans trop en dire. Mais comment éteindre un feu, ultimement, c'est une question qui m'intéresse beaucoup.
Avec aussi cette ambiguïté sur le vocabulaire. Par exemple, cette expression « feu », elle désigne à la fois les flammes, bien sûr, mais on l'utilise également pour qualifier une personne morte. Par exemple, « feu monsieur machin », qui dit bien que monsieur machin est décédé. Et ça m'a frappé ce lien, parce que ici, quand on dit « feu » une personne, c'est forcément synonyme de mort.
Voilà.
Vous vous étiez rendu compte aussi de cette association du thème et de cette expression de la langue?
Oui, en fait, on réalise que ces symboles-là sont souvent... On peut les prendre dans deux sens. Ils ont leur contraire aussi. C'est des principes plus que des éléments stables, en fait. Et tout ça, ces éléments-là que vous avez soulignés d'entrée de jeu, je les ai un peu exagérés au fur et à mesure où je les voyais apparaître dans le récit. Mais c'est leur relation, en fait, le feu et l'eau, l'air et le feu pour le faire aller en intensité, l'eau pour tenter de l'éteindre. J'ai remplacé un peu l'élément où Steve se sent bien après la première section de 9 ans. Dans ses 15 ans, il fait de la natation, il fait des cours de sauvetage, donc je le mets dans l'eau. J'essaie de faire cohabiter ces éléments-là, mais effectivement qu'un feu, c'est autant un principe de vie qu'un principe de mort. Évidemment que le feu détruit. On dit feu les gens quand ils sont morts aussi, mais de manière prométhéenne, le mythe, mettre le feu dans les humains, c'est les animer, leur donner la force de création. Donc ces principes-là sont vraiment étranges. Ils fonctionnent souvent de manière circulaire. Et vraiment, tout ça, c'est des systèmes tellement anciens que ça assure une certaine cohérence au récit. Lorsqu'on finit par tendre des fils entre ceux-ci, ça donne un genre de filet sur lequel l'histoire se repose et ça la structure, en fait, ça la rend cohérente.
De la même façon que le mot « amiante », si on déplace une lettre, on obtient « aimante ».
Aimante, absolument.
Ça vous plaît, cette ambiguïté aussi,
ah oui,
Sébastien
beaucoup.
Dulude?
J'aimais tellement le titre. Je dis souvent, c'est le premier mot du livre. C'est le titre, c'était déjà le projet. Il y a « ami », il y a « ami hanté » aussi, « hanté » au sens de « avant », peut-être. Il y a mille choses à faire avec ça. Oui, je le trouvais extrêmement riche. Et je trouvais aussi que c'est encore là un espèce de renversement. Pour les gens qui ont vécu à Telford Mines, avec qui j'ai parlé justement lorsque je suis allé les visiter pour un lancement récemment, je ne suis pas souvent retourné dans cette ville-là. ils ont le stigmate de ce mot-là. Les gens qu'ils rencontraient à l'époque, les années 80, 90, c'était comme si on portait une marque, là, vraiment comme si on portait en fait un virus. Ce qui n'est pas ça du tout, c'est d'être en contact avec la matière, de l'avoir dans les poumons et de développer un cancer, donc ça ne se transmet pas. Mais ce mot-là était stigmatisé tellement négativement et là, tout d'un coup, il est sur un magnifique livre bleu que les gens apprécient. Une histoire qu'on me dit qui n'est pas si dure que ça non plus parce qu'il y a quand même une bonne part de lumière. Je trouvais que je redonnais cet or blanc-là à ce mot qui est tombé dans le bas. À un certain point.
Alors, puisqu'on parle de langue, j'ai noté aussi que la mère de Steven, qui est de langue anglaise, quand elle s'exprime dans sa langue maternelle, vous écrivez, Sébastien Dulude, sa langue panique, avec un trait d'union entre les deux. Qu'est-ce que ça signifie?
Le personnage de la mère, c'est un personnage secondaire, assez passif, mais très riche aussi, je trouvais quand même, dans sa manière de faire peu. Je pense qu'elle subit beaucoup on comprend dans le récit qu'elle n'est pas originaire de la ville, a suivi le père dans sa carrière de mineur. Littéralement la carrière. Et puis, donc, ça vient avec toutes sortes de regrets qui sont en demi-teinte. Et cette crainte-là que Steve a, on peut facilement l'associer à ce qu'il vit comme difficulté à la maison et dans son environnement. Mais quand même, je pense que la mère est peut-être responsable d'une certaine transmission d'une inadéquation avec ce milieu-là, puisqu'elle n'en fait pas partie. Et elle, sa manière de le quitter, en fait, elle doit consentir à y rester. Donc, elle va plutôt se retirer à l'intérieur d'elle-même. On le nomme pas trop, mais elle a des maux de tête, elle dort beaucoup, elle sort plus de la maison. Donc, on peut peut-être penser... J'ai évité toute forme de diagnostic, d'ailleurs, dans ce roman, parce qu'à l'époque, c'était moins courant aussi. Mais il y aurait quelque chose peut-être de la dépression, qui est peut-être une manière de refuge aussi contre tout ça. Et sa langue panique, bien, c'est la langue aussi, c'est l'idée de ne pas parler la langue... qui est courante dans un milieu, donc ça l'isole elle aussi. Et elle aurait peut-être transmis un peu ce sentiment d'être à l'écart à son fils Steve.
C'est intéressant parce que moi, c'est la première fois que j'entends qualifier l'anglais de langue panique.
Ouais.
Est-ce que c'est lié aussi au fait, et évidemment, on sait bien qu'au Canada, au Québec, vous êtes extrêmement guerrier pour la protection de la langue française?
Oui, mais il y a aussi qu'on entend beaucoup la langue anglaise tout autour de nous et c'est une langue de peur, ça, il n'y a aucun doute. Présentement, on est en pleine course à la présidence américaine. On compare les deux versions du débat. Il y en a un qui parle la peur. Tous les mots, c'est une panique. C'est sur cette émotion-là qui tente de se faire élire. Alors, je n'avais pas tout soulevé ça consciemment. J'en discute avec vous et je remarque tout ça. Mais oui, la langue panique. Après, je pense que c'était aussi une langue panique, mais plutôt que d'enlever, lui, il ajoute. Hein, il fleurit beaucoup son vocabulaire. Il gère ça un petit peu différemment que sa mère, en fait, cette inadéquation avec le monde.
Oui, vous parlez de Steven, là.
Oui, son fils, c'est ouais, ça.
Ouais. Vous le disiez tout à l'heure, contre le feu, il y a l'eau. Et en effet, Steve, à 15 ans, se lance comme un forcené dans la nage. Il va à la piscine tous les jours. Alors, il y a aussi l'air. On parlait des oiseaux. Et en effet, il se fait tatouer un oiseau sur le bras. Il y a la terre qu'il fait crisser sous les roues de sa moto. Et puis, il y a l'amour, l'amitié, une fille, Cindy, qui va lui ouvrir d'autres horizons. Mais il y a un feu qui ne disparaît pas. Ce sont les gifles, les coups. Est-ce que c'est un livre qui s'adresse aussi aux pères pour leur rappeler que la violence sur les enfants n'est absolument pas une option?
Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui, ça témoigne de ça. C'est une violence ordinaire pour l'époque, mais ça a marqué toute une génération et celle d'avant. Et j'ai voulu quand même aussi faire la part des choses et suggérer que le père lui-même avait vécu ce genre de choses, mais on peut à tout moment interrompre ça.
Pourquoi ça vous tient à cœur?
Parce qu'en fait, la masculinité en ce moment est en crise, c'est certain. Il y a des comportements à revoir de fond en comble. Il y a des systèmes patriarcaux qui ont vraiment causé d'énormes dégâts. Et moi, je suis vraiment ceux qui pensent que le féminisme est bon pour tout, est bon pour tout le monde. Donc, revoir en tant que garçon, en tant qu'homme, nos manières de faire. Donc, par la transmission à nos enfants, ça me semble la première étape cruciale. Ce roman-là, c'est un défi, ça, la masculinité. Il l'explore de manière complètement naïve et sans préoccupation pour la norme de ce que font les garçons entre eux. Ils obéissent à ce qu'ils ont envie de faire, ils sont bien ensemble. Et après, à l'adolescence, bien, c'est autre chose. Et parliez de la piscine, c'est un lieu où je voulais donner à Steve un peu de répit. C'est son nouvel élément dans lequel il est bien. Mais dès qu'il arrive dans le vestiaire avec les autres garçons, il y a quand même cette tension-là aussi. Il y a une homophobie en toile de fond derrière ça. Le père aussi fait quelques commentaires à cet effet-là. C'est quoi devenir un homme dans un milieu ouvrier? Ben, c'est d'obéir au destin, c'est d'aller piocher dans la mine. Et Steve n'appartient pas du tout à cette lignée-là. Il préfère la lecture, il préfère des choses qui sont peut-être considérées féminines. Et ça doit être normalisé, en fait, que les garçons n'ont pas qu'un seul devenir possible.
Mais ça, c'est un temps révolu. Et d'ailleurs, vous dédiez ce roman à votre fils.
Oui.
Ça veut bien dire qu'il y a d'autres possibilités que, effectivement, ce schéma hétéronormatif.
Oui, tout à fait. Pour tout dire, je ne me suis même pas posé la question. De ma génération, je pense, on n'élève pas les enfants avec des fessées. Je regarde les réseaux sociaux que les plus jeunes que moi utilisent et on voit quand même revenir des discours masculinistes chez des très jeunes hommes, début vingtaine. Alors, il ne faut jamais baisser les bras. Il y a quand même quelque chose d'une grogne contre le privilège qu'on cède un peu pour que plusieurs en bénéficient. Il n'y a rien d'acquis, en fait. Je n'ai pas l'impression du tout qu'on on a quand même fait de grosses avancées et on est mieux en mesure nous-mêmes de le transmettre aux générations qui nous suivent, mais apparemment que ça ne se rend pas à tout le monde.
C'est un roman aussi qui dit la violence sociale, la violence économique. D'abord, comment dans une petite communauté, la fermeture peut-être d'une mine qui fait vivre tout un environnement suscite de la frustration, génère de la violence, violence sociale qui peut se rejaillir sur la famille et sur les enfants. C'est aussi tout un écosystème que vous décrivez ici.
Oui, et on peut le mettre en parallèle à ce qu'on vient de dire juste avant, en fait. Lorsqu'on fait confiance à un seul système et que ce système-là déraille, on n'a plus beaucoup d'autres options. Alors, on fait confiance à une ville industrielle, le client n'achète plus, c'est un stress, c'est évident que c'est un stress et ça se transforme en violence. Pourquoi? Alors là, il faudrait étudier le phénomène. Déjà, la vie d'ouvrier, c'est rude. Je pense qu'il s'accumule dans le corps des gens qui se font, je ne vais pas pousser le marxisme trop loin, mais qui se font quand même exploiter parce que ceux qui s'enrichissent sont toujours évidemment ceux par-dessus les employés. Donc, c'est un système auquel on n'avait pas prévu de plan B. Et quand ça tombe, c'est sûr que ça provoque un traumatisme. De la même manière que la seule manière traditionnelle de penser les garçons a causé ces dommages-là, parce qu'on n'a pas prévu des voies de sortie pour d'autres tangentes.
C'est peut-être la littérature, la tangente. Alors, c'est votre premier roman, Sébastien Dulude, et en France, déjà, il a une réception formidable. Il est repéré par les journalistes, presse écrite, télévision, repéré par les libraires, par les festivals. Bien sûr, c'est un très, très beau roman. Mais néanmoins, comment est-ce que vous expliquez ce succès? Ou en tout cas, comment est-ce que vous le ressentez, vous?
Écoutez, je suis ravi, ça c'est sûr. Je ne m'étais pas permis de rêver à tout ce qui se passe en ce moment. On savait qu'on avait un bon roman. Je l'avais travaillé de manière très sérieuse. J'ai une équipe extraordinaire, La Peuplade. C'est leur 7e rentrée ici. Donc vraiment, ils ont une présence auprès des libraires, justement, de crédibilité très, très forte. Après tout l'appareillage, les médias, les invitations au festival, les listes de prix, tout ça, en fait, c'est conséquent à un travail de présence sur le territoire. Mais ultimement, plus j'y réfléchis, je pense que j'ai touché un nerf avec l'enfance. Ça, c'est le grand universel, je pense, qui fait que le roman traverse l'Atlantique, touche plusieurs générations, hommes, femmes aussi. Les retours que j'ai individuellement des lecteurs, lectrices, sont bouleversants. Ça me touche énormément. C'est formidable. Et c'est toujours de l'enfance dont on me parle en premier. L'écriture, oui. Le livre, plein de détails du livre. Mais ce petit Steve qu'on voudrait prendre dans nos bras, ça, je l'entends beaucoup, beaucoup. Je pense que j'ai créé un personnage qui parle beaucoup aux personnes qui l'accueillent.
Et c'est vrai qu'on a tous envie de le prendre dans nos bras. Merci beaucoup, Sébastien Dulude. Je rappelle le titre de ce très beau roman, Amiante, avec cette magnifique couverture, en effet, ce ciel bleu et ces oiseaux rouges qui montent vers le ciel. Amiante, qui a paru aux éditions de La Peuplade.
Merci beaucoup.
Littérature sans frontières, Catherine Frujon-Toussaint, Apolline Verlon.